Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Au cœur de ces rouages, pour les exprimer, il y a des mots et des sigles, des abréviations. Et l'un des sigles les plus utilisés, l'un de ceux que vous entendez jour après jour, dès qu'on vous parle économie, l'un de ceux auxquels les invités de cette émission et surtout les hommes politiques ont recours, c'est le sigle PIB. Écoutez.
Je vous rappelle que nous avons le droit d'avoir un pourcentage de dette dans le PIB de 60%. Nous sommes à 52%.
Nous voulons, dès 2009, un déficit limité à 2% du produit intérieur brut.
Faire baisser la pression fiscale d'un point de PIB sur 5 ans. Faire baisser la dépense publique de 3 points de PIB sur la même période.
L'État doit faire des économies substantielles pour baisser, durant ce quinquennat, de 3 points de produit intérieur brut, la dépense publique.
Vous aurez reconnu successivement les voix de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre et l'actuel Président de la République, Emmanuel Macron. Alors le PIB dont je parlais tout à l'heure, bien sûr, c'est le produit intérieur brut, la statistique clé, celle qui ouvre la porte à toutes les analyses économiques, qui permet parfois d'avoir l'air de savoir de quoi on parle, le produit intérieur brut. Seuls les spécialistes le connaissent. Qui connaît le produit intérieur brut de la France? Peu de monde. Ce qui arrive aux oreilles du grand public, c'est son rythme de progression. Il s'écrit et s'exprime sous forme d'un pourcentage, avec la plupart du temps deux chiffres, une virgule au milieu. Mais d'abord, il faut le signe plus. S'il est là et que le premier chiffre est gros, alors les nouvelles sont bonnes. À l'inverse, s'il y a le signe moins devant le pourcentage, c'est la bérésina. Mais derrière ces pourcentages, ce produit intérieur brut, que résume-t-il? Est-il utile ou est-ce une perversion statistique? Y a-t-il des alternatives à ce baromètre? Voilà les questions qui seront débattues pendant cette émission avec les deux invités que je vous présente. Bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour.
Xavier Timbaud, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français de conjoncture économique qui est rattaché à Sciences Po. L'OFCE publie une revue dont le dernier numéro, le numéro 153, est intitulé « Où va l'économie ?». L'un des contributeurs, Édouard Schalk, qui était à votre place il y a quelques semaines, se demande par exemple si l'étude des fluctuations macroéconomiques est scientifique. Et avec vous, dans ce studio, un autre Xavier, Xavier Ricard Lanata, bonjour.
Bonjour.
Xavier Ricard Lanata, votre CV est long comme un annuaire, vous êtes ethnologue, philosophe, ancien directeur des partenariats internationaux de l'ONG CCFD Terre Solidaire, actuellement haut fonctionnaire et auteur récent d'un livre littéraire publié aux éditions du Seuil intitulé « Blanche et la Terre ». J'ajoute que vous avez contribué au numéro de février de la revue Projet, un numéro intitulé « Comment mesurer le bien vivre ». Projet est une revue créée en 1907, donc ça ne date pas d'hier, par les jésuites, une revue qui est aujourd'hui animée par l'équipe du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale. Au cours de cette émission, des reportages de nos correspondants en Équateur, Eric Sanson et en Inde, Sébastien Farcy, et également, grâce à la sonothèque de RFI, quelques sons d'archives. La parole à vous d'abord, Xavier Timbaud, au pur économiste que vous êtes. Le PIB, le produit intérieur brut, dans son acception la plus courante, qu'est-ce que c'est?
Le produit intérieur brut, c'est une mesure de l'activité économique. Cette mesure d'ailleurs de l'activité économique, elle a été beaucoup développée après la Grande Dépression. Dépression, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas
d'informations. De laquelle parlez-vous?
Celle de 1929. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'informations sur l'état des économies en temps réel. Et donc, il était nécessaire d'avoir une mesure synthétique, agrégée, qui donne très rapidement un diagnostic sur est-ce que les économies sont en récession ou est-ce qu'elles sont en expansion, et de pouvoir utiliser cet instrument pour guider la politique économique.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on agrège dans cet indicateur?
Alors, le produit intérieur brut, c'est une mesure de la production. Donc, ce qu'on agrège, c'est la production. Très schématiquement, vous avez dans une économie tout un tas d'unités économiques, des entreprises, des grandes entreprises, des petites, des indépendants, des activités économiques éventuellement informelles, et vous essayez, pour chacune de ces unités, de mesurer son activité économique, et puis d'additionner tout ça pour avoir l'activité économique sur un territoire, ou avec une nationalité. Bon, le produit intérieur brut, le intérieur veut dire à l'intérieur des frontières.
Parce que souvent, on a parlé de produit national brut. Quelle est la nuance?
La nuance entre produit national et produit intérieur, c'est que le produit intérieur est sur une délimitation géographique. Donc la notion importante, c'est celle de résident. Est-ce que vous êtes résident sur un territoire? Et le produit national, c'est indépendamment de votre lieu de résidence, c'est l'agrégation des activités des nationaux. Donc en particulier, la différence, c'est quand vous rapatriez des profits de l'étranger, par exemple, vous allez intégrer ça dans le produit national brut, ou dans le revenu national brut.
Xavier Ricard Lanata, d'accord avec cette définition?
Oui, tout à fait. Enfin, et je pense que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que ça a été d'abord et avant tout une discussion de comptabilité. Hein, établir une comptabilité nationale et qui permette justement de rendre compte de l'ensemble des activités économiques. Ça a été un grand débat avant la guerre et surtout après la guerre. Il faut pas...
Quand vous parlez de la guerre,
la Deuxième Guerre mondiale, il faut pas dissocier ce moment aussi de la nécessaire reconstruction de la France. En France, on a eu besoin aussi de cet indicateur pour pouvoir adapter des politiques nationales de réindustrialisation et de développement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à l'origine, ce qui est comptabilisé dans le produit intérieur brut, ce sont l'ensemble des échanges monétaires. Et au départ, d'ailleurs, les administrations publiques en étaient exclues. Et on a réintégré dans le PIB, c'est-à-dire que les administrations publiques, elles consomment des produits, elles facturent aussi des productions entre elles et puis vis-à-vis des usagers. Ces échanges-là étaient exclus du premier PIB, si je veux dire.
C'est-à-dire celui de 46.
Parce que entre l'après-guerre et les années 70, en gros, on comptabilisait que les échanges qui portaient sur les activités du secteur privé.
Mais là, vous
parlez
de la France.
C'est très important.
Là, vous parlez de la France.
Mais je parle de la France et c'est un petit peu la même chose ailleurs. Enfin, là, Xavier Timbaud me contredira si je me trompe, mais cette incorporation de l'activité des administrations, de toute façon, a été plus tardive que les premières élaborations du PIB.
Mais Xavier Timbaud, justement, ce PIB, il est normé, il est le même partout?
Alors, c'est un travail très important qui a été accompli après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est beaucoup intensifié dans les années 70-80, qui a été un travail à la fois de standardisation des règles comptables appliquées, avec l'élaboration d'une forme de plan comptable, tel qu'on l'applique dans les entreprises privées, donc qui définit dans quelle catégorie on va mettre telle dépense ou telle recette. Tout ça a été fait sous l'égide des Nations Unies, de l'OCDE. Le but, c'était de véritablement disposer d'un instrument qui permette de comparer. Alors, ça a été un travail compliqué, parce que chaque pays avait son approche, ses besoins, avait aussi, disons, son administration qui avait développé sa comptabilité. Donc, par exemple, la France s'est beaucoup dissociée des pratiques anglo-saxonnes parce que la France pensait qu'elle avait un système qui était plus adapté et meilleur sur un certain nombre de points par rapport à celui des Américains. Il a fallu attendre le milieu des années 70 pour qu'il y ait vraiment convergence. Ça, c'est un premier point, c'était la convergence pour la standardisation. Mais il y a une autre dimension qui est très importante dans la standardisation et dans la normalisation, qui est la notion de certification des méthodes et donc de construction de la confiance. C'est-à-dire que depuis la construction des statistiques, qui est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles dans tous les pays organisés, il y a toujours eu le soupçon que les statistiques étaient faites à l'avantage du pouvoir. Alors, oui, elles sont faites par le pouvoir, elles sont souvent liées à une activité fiscale, et donc il peut y avoir une tentative à la fois de mieux présenter la situation, et puis surtout d'être biaisé par les intérêts de l'État en tant que collecteur d'impôts, par exemple, ou en tant que producteur. Et dans le processus de normalisation, ce qu'il fallait, c'était donner confiance à l'ensemble des parties prenantes de la démocratie dans les statistiques qui sont construites, parce que ça sert aussi, et ça c'est très important, pour juger les gouvernements. Donc, vous jugez votre gouvernement sur les lois qu'il édicte, sur l'action qu'il conduit, mais aussi sur les résultats qu'il obtient. Et fatalement, la croissance du produit intérieur brut est un des indicateurs qui va vous permettre de juger votre gouvernement. Alors, ça va vous permettre de le juger dans l'absolu, est-ce que cette croissance elle est positive ou négative, par exemple, mais ça va aussi vous permettre de le juger de façon relative, est-ce que vous faites mieux que les voisins ou pas, et ça, dans le débat démocratique, c'est évidemment un élément extrêmement important. Il faut avoir confiance dans ces statistiques, parce que si vous pensez qu'elles sont manipulées, elles peuvent être même contre-productives.
Xavier Ricard Lanata, est-ce que l'existence de ce PIB, de ce produit intérieur brut, normé, normalisé, réglementé, ça induit des politiques économiques?
Bien sûr, puisque j'insistais tout à l'heure sur le fait que ce PIB rend compte de l'ensemble des activités dans la mesure où elles font l'objet d'une contrepartie monétaire. Donc, on pourrait imaginer un pays dans lequel aucune transaction ne se fait sous la forme monétaire, hein, un pays où on ne fait que pratiquer le troc ou l'échange de services. Dans ce pays, les activités qui entre dans le PIB serait nul. Donc le PIB serait égal à zéro. Bon, est-ce que pour autant ce pays n'aurait pas d'activité ? Bien sûr que non. Ce pays aurait un certain nombre d'activités, de production, d'échanges. Et d'ailleurs, la plupart des pays du monde sont entrés dans la transaction monétaire de façon plus ou moins tardive. Et là, il y a des auditeurs qui nous écoutent au Congo. Le Congo-Kinshasa, jusqu'à la fin du 19e siècle, ne connaissait pas l'usage standardisé de monnaie. Donc son PIB était nul, mais en revanche, il y avait une activité. Alors pourquoi on a eu besoin de développer le PIB, je disais, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait absolument renforcer, disons, et donner aux politiques un indicateur qui leur permette de savoir si elles allaient dans la bonne direction en matière de réindustrialisation, développement des échanges, etc. On était dans une économie marchande, donc on a pris en compte l'ensemble des transactions marchandes. Aujourd'hui, on fait face à des défis considérable, et on voit bien que une politique économique qui répondrait à ces défis ne peut pas se baser uniquement sur l'évaluation de l'accroissement quantitatif des échanges marchands. Il y a des tas de choses auxquelles on doit aujourd'hui faire face, qui sont d'une nature tout à fait différente. Et donc, si on veut réorienter les politiques publiques, il nous faudra aussi des indicateurs qui nous permettent de mesurer dans quelle mesure ces politiques atteignent ou pas leurs objectifs.
Xavier Thimbault, je vous pose la même question. Est-ce que ce PIB, produit intérieur brut, induit des politiques économiques ?
Oui, il induit des politiques économiques. C'est l'argument d'Alain Supiot dans La gouvernance par les nombres. C'est-à-dire que on vit une époque où on veut
Alain Supiot, c'est un
juriste français qui a travaillé sur un certain nombre de questions de gouvernance et donc en particulier qui a écrit cet ouvrage que je vous recommande sur la gouvernance par les nombres, qui est une réflexion assez poussée sur la question de rationalisation de la décision publique en fait. Donc l'idée c'est de dire on veut d'un côté une décision publique rationalisée. Ça, c'est assez légitime, c'est-à-dire on veut éviter l'arbitraire, on veut éviter les obsessions ou les lubies, on veut avoir quelque chose de transparent qui puisse être discuté par différentes parties prenantes qui peuvent arriver à un consensus par des procédures, donc dans l'idée d'une démocratie procédurale. Et donc quand on est dans ce genre de schéma, la question de la quantification apparaît comme une étape indispensable pour la rationalisation. Si on peut mettre des nombres, ça veut dire qu'on peut comparer des choses et comparer des choses qui ne sont pas comparables, enfin, ou qui sont difficilement comparables. C'est tout l'objet du produit intérieur brut et des transactions monétaires, c'est de pouvoir mettre dans la balance, d'un côté, éduquer des enfants, et de l'autre côté, produire des voitures, partir en vacances dans un pays étranger, ou cultiver ou aménager un espace public quelque part dans une ville. Donc tout ça sont des choix individuels ou collectifs, et il s'agit d'essayer de trouver une rationalité dans pourquoi on va plutôt favoriser ou développer, ou pourquoi pas, cette autre activité. Et donc, quantifier, c'est important pour rationaliser. Mais quand on quantifie, on écrase la réalité et on refuse de voir certaines choses. Xavier évoquait la question des transactions monétaires. On a intégré petit à petit dans le produit intérieur brut l'économie non marchande, l'activité de l'administration, l'activité éducative, la santé, ces dimensions-là. On n'a jamais véritablement intégré l'activité domestique. Donc c'est une face cachée de la mesure quantifiée. Et du coup, eh bien, effectivement, dans les décisions publiques et politiques, on rationalise, on va équilibrer ou on va regarder plus d'éducation, plus de santé versus plus d'automobiles consommées. Ça, on peut le faire parce que tout ça est quantifié. Mais par contre, il sort complètement du champ de la réflexion et de la rationalisation la question de l'économie domestique. Vaut-il mieux que les femmes soient au foyer et qu'elles éduquent les enfants ou qu'elles fassent le ménage? Ou vaut-il mieux qu'elles sortent du foyer, qu'elles travaillent et utilisent au mieux leurs qualifications, et quitte à marchandiser ces activités domestiques? Donc comment ça se... les inégalités entre les hommes et femmes, par exemple, on en parle beaucoup. Mais vous voyez, quand on en parle, quel est le chiffre qu'on utilise? On utilise la différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais en utilisant la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, on occulte complètement la différence de temps d'activité domestique entre les hommes et les femmes. Or, dans les inégalités entre les hommes et les femmes, même si les femmes étaient aussi payées que les hommes, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont une activité domestique qui est beaucoup plus importante que celle des hommes. Et donc, même dans ce cas-là, il n'y aurait pas égalité, parité entre les hommes et les femmes. Donc, vous voyez, là, quand on met des chiffres, ça aide à la prise de décision. Alors, évidemment, parler d'égalité entre hommes et femmes, ça va demander de regarder les salaires, et c'est un chiffre qui peut indiquer son évolution, son niveau, peut stimuler des politiques, peut dénoncer des situations. Et on peut être tous d'accord pour dire, ben oui, effectivement, ça marche pas bien, et donc il faut faire quelque chose. Mais en même temps, en prenant un chiffre, on va masquer, occulter, oublier toute une dimension. Et cette dimension-là, elle peut finalement, au bout d'un moment, oui, on peut arriver à un paradoxe, c'est-à-dire que, en voulant bien faire.
Le PIB s'oppose à l'égalité homme-femme.
D'une certaine façon. En voulant bien faire, en voulant faire l'ange, on fait la bête.
Xavier Ricard Lanata, d'accord avec cette vision des choses, il faudrait inclure le travail domestique.
Plus généralement, le travail bénévole. Parce que le travail domestique, ça n'est qu'une sous-composante du travail bénévole. Et en France, on n'a pas pris la mesure réellement de la contribution du travail bénévole à la soutenabilité, à la viabilité de la société. On se rend pas compte qu'une grande partie du pays, en réalité, fonctionne parce qu'il y a des adjuvants bénévoles qui permettent aux personnes de vivre tout simplement de façon plus ou moins équilibrée, de façon plus ou moins viable. Donc le travail bénévole, c'est essentiel. Et puis, il n'y a pas que ça comme limite au PIB. Il y a aussi le fait que c'est un indicateur qui ne porte aucun jugement sur la qualité de l'activité et donc sur sa valeur, son utilité sociale. Vous savez qu'on met dans le PIB aussi bien les réparations qui sont nécessaires du fait des accidents de la route que la production d'une unité quelconque d'un produit industriel. Or, l'augmentation des accidents de la route, qui va faire mécaniquement augmenter le PIB, n'est pas en tant que tel souhaitable d'un point de vue social. Et puis, autre difficulté qui est une difficulté essentielle du PIB, c'est que c'est pas du tout une comptabilité patrimoniale. Autrement dit, on mesure les flux, on mesure pas les stocks. Et il y a un vrai problème actuellement de déperdition de stocks.
Qu'est-ce que vous appelez le stock?
Le stock, c'est par exemple si vos sols s'appauvrissent.
Vous parlez agriculture.
Je parle par exemple agriculture, mais on pourrait parler plus généralement de l'ensemble des ressources nécessaires à la vie. La biodiversité, c'est absolument essentiel. L'ensemble des biens communs, qu'est-ce que ce sont les biens communs? Ce sont des biens qui ne sont, alors en théorie économique on dit ni exclusif ni rivaux, autrement dit ce sont tous ces biens que l'on ne peut pas s'approprier et qui n'entrent pas en concurrence les uns avec les autres. Bon, ce sont ces biens comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de notre écosystème, sa capacité de résilience. Ces biens, ce sont des biens qui ont pour caractéristique le fait que, pour arriver à les définir, on est obligé de faire intervenir une dimension qualitative. Eh bien, ces biens, l'existence ou pas, l'appauvrissement, la détérioration de ces biens n'est absolument pas prise en compte par le PIB. Toutes ces difficultés sont des difficultés auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés plus que jamais. Et on est obligé de produire des orientations politiques qui tiennent compte de la viabilité de nos sociétés humaines. Il est évident qu'avec un indicateur aussi pauvre que le PIB, on n'aura pas du tout les éléments d'appréciation et de suivi, de monitoring, d'évaluation de ces politiques. Donc, je pense que voilà, ce qui a été fait à une époque, parce que évidemment ça se justifiait et on comprend très bien les préoccupations qui ont présidé à l'élaboration de cet indicateur. Mais aujourd'hui, il faut absolument en trouver un autre ou d'autres. On peut aussi imaginer des faisceaux.
Alors, l'indicateur,
c'était un petit peu l'objectif de la loi SAS de 2016. On pourra en parler.
On en parlera éventuellement dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous sommes au terme de la première partie consacrée à la notion de PIB, de produit intérieur brut. C'est le moment de retrouver le traditionnel flash d'actualité. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes avec beaucoup de reportages.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Éco d'ici Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la notion de produit intérieur brut avec deux invités, Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE, et Xavier Ricard Lanata, ethnologue, philosophe, haut fonctionnaire, collaborateur de la revue Projet, qui a en partie inspiré cette émission. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons fait l'histoire du produit intérieur brut, nous en avons vu les atouts, les implications et les limites. Les limites, elles ont fait l'objet de nombreuses recherches, de nombreux rapports, en particulier dans les pays en développement où il est parfois difficile de calculer ce PIB. Le gouvernement indien, par exemple, se targue de jouir de la croissance économique la plus rapide en ce moment des grands pays de la planète et d'avoir dépassé la Chine en atteignant les 7,2% d'expansion du PIB lors du dernier trimestre 2017. Mais ce chiffre est-il vraiment représentatif de la santé de la troisième économie asiatique dans un pays où environ la moitié de la richesse est créée par le secteur non organisé? Il est difficile d'avoir des chiffres fiables, surtout que l'Inde est récemment passée par un choc avec une démonétisation brutale il y a 18 mois qui a beaucoup frappé cette économie informelle. Écoutez ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Sébastien Farsi à New Delhi en Inde.
Nous sommes dans le quartier des mécaniciens de Kotla, au sud de New Delhi. Ici, des dizaines de voitures dépecées sont réparées, reformées, voire ressuscitées. Mais le vacarme ambiant cache une déprime économique. Rajkumar Sodhi est le secrétaire général de l'association des commerçants de ce quartier.
C'est comme avant 2-3 ans, nous faisons bien, vous savez.
Il y a 2 ou 3 ans, nous nous portions bien. Mon chiffre d'affaires était de 500 000 roupies, mais maintenant, le gouvernement a interdit aux voitures de plus de 15 ans de rouler. Donc nos affaires se sont effondrées. Et je gagne à peine 5 000 roupies par mois.
5 000 roupies, cela fait environ 65 euros. Et Monsieur Sodhi a subi une deuxième peine avec la démonétisation. En novembre 2016, le gouvernement invalide et remplace petit à petit l'essentiel des billets indiens pour lutter contre l'évasion fiscale, ce qui frappe de plein fouet ce genre de commerce qui fonctionne en liquide. Mais ce ralentissement est difficile à mesurer dans le calcul du PIB, car sur ce marché, par exemple, 20% des garages ne sont pas enregistrés par les autorités fiscales, comme celui d'Abdul Majid, qui est carrossier.
Je suis ouvert pendant 6 jours, mais je n'ai du travail que pendant 2 jours en fait. J'ai 2 salariés, mais avec un si petit revenu, je ne vais pas non plus payer de taxes, donc je ne suis pas enregistré.
En Inde, 45% de la richesse est créée par ce genre de commerce non enregistré. Le gouvernement n'a donc pas les moyens de connaître leur santé et recourt à des sondages tous les 2 ou 3 ans. Entre-temps, il fait seulement des estimations, un exercice impossible aujourd'hui à cause du choc de cette démonétisation qui a bouleversé ces petits commerces. Selon le professeur Arun Kumar, spécialiste de l'économie informelle, les chiffres officiels de la croissance du PIB ne sont donc pas fiables.
Les sondages qui ont été faits au moment de la démonétisation ont montré que les revenus du secteur non organisé ont chuté de 50%. Donc si 45% de l'économie chute de 50%, ça engendre une baisse de 22% de la croissance. Ainsi, pendant cette période, le rythme de croissance était certainement de 1% et l'économie ne s'est pas totalement remise. Les investissements ne sont pas repartis, donc je dirais encore qu'aujourd'hui, l'économie croît à 1% environ et non à 6 ou 7%.
La santé du secteur non organisé est d'autant plus importante que celui-ci emploie 9 travailleurs indiens sur 10.
Un reportage signé Sébastien Farsi à New Delhi. Xavier Timbaud, c'est symptomatique des limites du PIB, cet indicateur économique, ce qui se passe en Inde avec la non-inclusion de beaucoup de petits ateliers, de petits garages, de tout le secteur informel en fait.
Alors, c'est symptomatique que oui et non. C'est-à-dire que conceptuellement, depuis le début des réflexions sur la construction de la mesure en économie, il est apparu que il fallait bien distinguer l'activité formelle de l'activité informelle et qu'il n'était pas question de laisser tomber l'activité informelle. C'est-à-dire que c'est pas le cadre légal qui définit l'activité économique. Et si les gens ont des activités en dehors du cadre légal, il faut les prendre en compte et il n'est pas du ressort de celui qui mesure de décider ce qui est bien ou pas bien. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, conceptuellement, ces bases-là ont été posées très tôt. Il y a un nom important dans la construction de la comptabilité nationale, qui est évidemment celui de Simon Kuznets, qui a construit les premiers comptes nationaux américains. Mais il y en a un autre qui est aussi assez important, qui est celui de Richard Stone, un économiste anglais, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui a aussi beaucoup participé à la construction des comptes nationaux, et qui a posé très tôt cette idée-là, qui a conduit d'ailleurs progressivement à ne pas inclure que les transactions monétaires. En fait, c'est un petit peu la même chose. Il est important, dans la mesure de l'activité économique, de ne pas se limiter à ce qu'il est facile de mesurer, au sens où, parce que ça donne lieu à une transaction éventuellement enregistrée par le fisc, et c'est ça qui définit l'activité économique. Donc ça a été posé très tôt. Mais après, il y a un problème pratique qui est que, comment on fait pour mesurer quelque chose qui est informel. C'est quelque chose que connaissent très bien, par exemple, les agents du recensement français, aujourd'hui, de l'INSEE. Quand ils arrivent pour faire le recensement, ils ont une carte bleu-blanc-rouge. Et évidemment, les personnes qui sont en situation irrégulière, les clandestins... Qui travaillent au noir, quand ils voient la carte bleu-blanc-rouge, ils se disent « Fuyons, ne parlons pas à ces gens-là ». Si on parle à ces gens-là, en fait, on va recevoir ensuite un contrôle du fisc, une visite de la police, etc. Alors, ce problème-là, il se retrouve démultiplié dans les pays où l'activité informelle est très importante, dans lequel peu de transactions sont soumises à la fiscalité, donc du coup, dans lequel il y a beaucoup d'évasion fiscale, et où évidemment, quand un enquêteur vient pour essayer de repérer quelle est l'activité économique dans les petits commerces de réparation en Inde, tout le monde se cache parce que tout le monde pense, parfois pas complètement sans raison, que derrière il va y avoir aussi un contrôle fiscal. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un problème. Les statistiques sont faites par les États, et donc évidemment tout ce qui est à la frontière du périmètre de l'État, c'est difficile d'accès.
Xavier Ricard Lanata.
Et je crois que, en réalité, il y a un problème soulevé par cette idée de neutralité axiologique du PIB.
Alors la neutralité axiologique,
c'est-à-dire
c'est
comme
un peu
le disait Xavier Timbaud, c'est ni bien, on ne préjuge pas de ce qui est bien ou mal dans l'activité. On tient compte de l'activité pour ce qu'elle est et on la comptabilise, indépendamment des jugements moraux qu'on peut porter sur cette activité. Ça va jusqu'au point que là, je crois que l'INSEE a décidé d'inclure à partir du mois de mai, me semble-t-il, de cette année, le trafic de drogue dans le calcul du PIB français. Alors le problème
en Italie, on inclut aussi la prostitution.
Voilà, la prostitution.
En fait, c'est une norme. Ça fait partie des normes internationales.
Voilà.
Qui est que ces activités-là, drogue et prostitution, doivent être incluses dans le calcul du PIB. Donc, en fait, l'INSEE se plie à ce règlement international. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interprétation que l'INSEE en fait.
Ah, alors bon, ça serait peut-être... Là, j'ai pas énormément d'informations sur le type d'interprétation que l'INSEE en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est que effectivement, dans une telle approche, en quelque sorte, évidemment, le contenu même de l'activité n'importe pas du tout. Hein, qu'il s'agisse de trafic d'armes, de publicité, de drogue ou d'autres choses, tout est intégré. Tout à l'heure, je parlais des accidents de la route, etc. Bon. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il me semble que l'on est face à des défis qui, en quelque sorte, nous obligent collectivement à porter des jugements qualitatifs sur ce qui est souhaitable ou ce qui ne l'est pas. Hein, et je parlais des biens communs. Les biens communs, ce sont des biens qui font appel, de toute manière, à un jugement qualitatif. Quelle est la quantité, le type d'air que nous souhaitons respirer? Bon, c'est évidemment, certains diront, l'air peut être plus ou moins dégradé, le cycle du carbone peut être plus ou moins à l'équilibre. Peu importe, si, justement, ça importe. Dans quelle mesure les sociétés sont capables de vivre de façon viable, c'est une question aujourd'hui existentielle. Ça n'était peut-être pas tout à fait avant. Et donc, cette neutralité axiologique du PIB pose difficulté au sens où, justement, elle ne tient pas compte de ces débats qui sont absolument nécessaires et qui vont nous obliger à certains moments à trouver de façon collective et démocratique des éléments
Donc vous plaidez pour une réforme de ce PIB ?
Je pense que le PIB doit être à tout le moins complété, si ce n'est carrément dépassé comme indicateur central. Je pense que la question de l'activité en tant que telle n'est qu'un des éléments qui nous permet de savoir si la société parvient
parvient à ses objectifs, et ses objectifs doivent être déterminés collectivement. Il faut des éléments pour pouvoir apprécier si c'est le cas ou pas, et ces éléments ne sont pas du tout dans l'indicateur synthétique et agrégé qu'est le PIB.
Il faut dépasser le PIB, changer d'indicateur, Xavier Timbaud ?
Oui et non. La question de la neutralité axiologique de la mesure, elle est indispensable. On ne peut pas lutter contre le crime en décidant que le crime n'est pas bien. Et donc la question n'est même pas de remettre en cause le jugement moral si on n'a pas des statistiques sur le crime. C'est-à-dire dire les viols, c'est quelque chose d'insupportable, et donc on refuse même d'avoir des statistiques sur le viol, c'est le meilleur moyen pour en fait tolérer l'inacceptable. La première chose à faire, c'est de mettre le projecteur sur toutes les dimensions, et donc de mesurer l'activité de prostitution, celle de trafic d'armes, celle de drogue, de pouvoir être capable de la mesurer précisément, de voir son évolution, parce que ce sont des instruments pour juger les politiques publiques, le fonctionnement de la société, et qui vont dans ce sens. Et ça, c'est important, parce que la construction du PIB, au départ, c'est la mesure d'une activité qui est l'activité collective, mais qui n'est pas une activité réglementée ou décidée. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, mesurer la prostitution, c'est important. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ensuite, on va intégrer ça dans la mesure du produit intérieur brut. Et sachant que ensuite ce produit intérieur brut vont servir, par exemple, à décider les fonds structurels. Et donc, se dire, mais finalement, pour augmenter mes fonds structurels...
Les fonds structurels
c'est les transferts que l'Union européenne réalise vers certaines régions, parce qu'elles sont plus pauvres que les autres régions, donc c'est sur une base de compensation et d'aide en quelque sorte au développement des régions européennes. Ces fonds structurels, ils sont assis sur la mesure du produit intérieur brut. Et donc, ça veut dire que, paradoxalement, si je développais la prostitution dans un endroit, ça augmenterait son produit intérieur brut et ça justifierait de réduire les fonds structurels. Alors que là, évidemment, la question de neutralité axiologique nous oblige à dire, mais non, c'est pas possible, on peut pas traiter des investissements dans l'éducation de la même façon qu'on va traiter de l'activité de prostitution.
Je vous arrête, Xavier Timbaud, nous parlons non pas de neutralité axiologique, mais du produit intérieur brut, parce qu'il semble que cette notion de neutralité axiologique vous soit chère. On va continuer notre parcours, notre voyage en Équateur. Le président Rafael Correa avait décidé en 2013 de créer un ministère du bien-vivre, un ministère qui n'a pas du tout convaincu. Pourtant, l'idée continue, comme on en atteste ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric Sanson Aquito.
Professeur d'économie de l'université San Francisco de Quito, Luis Espinosa a parfois des états d'âme en classe. C'est le cas lorsqu'il lui faut enseigner des paramètres comme le PIB, dont il doute dans sa thèse doctorale.
Ni le gouvernement équatorien, ni aucun gouvernement du monde ne publie le PIB avec une marge d'erreur comme on devrait le faire. Quand une mesure est complexe, elle doit venir avec une marge d'erreur. Qu'on ne me dise pas qu'on peut mesurer avec précision tout ce que produit l'Équateur en un an. Il faut être statistiquement honnête. Selon la Penn World Table, le PIB équatorien de 100 milliards doit être présenté avec une marge d'erreur de 30 à 40%.
Luis Espinosa n'est même pas sûr que l'économie réelle puisse vraiment être mesurée. Il reconnaît au PIB l'avantage de permettre des comparaisons entre pays, même si pour lui, cet indicateur souffre de nombreuses imperfections.
Les gens pauvres apparaissent comme étant beaucoup plus pauvres qu'ils ne le sont. Si tu es propriétaire d'une maison ou si tu as des actions en bourse, c'est comptabilisé. Si tu as une vache, un cochon ou un petit jardin potager, ce n'est pas compté. Donc la différence entre pays riches et pays pauvres s'accentue.
Au-delà de ces failles, beaucoup reprochent au PIB de ne mesurer que l'économie. C'est le cas de l'actrice Connie Aiken qui a fondé la section équatorienne de l'Institut du bien-être créé au Chili il y a 6 ans.
Je crois que le PIB, c'est un peu court. Il y a d'autres paramètres pour mesurer la qualité de vie. Par exemple, habiter près de son travail, ne pas avoir trop de déplacements, manger chez soi, avoir son fils à la maison. Mais évidemment, il faut aussi que les besoins de base de la personne soient couverts. On ne peut pas parler de bien-être et de bonheur à une personne qui a faim.
Si l'argent fait donc quand même quelque part le bonheur, pour l'étudiante en psychologie Daniela Alvarez, l'Équateur a d'autres atouts.
L'Équateur est un pays où nous sommes tous attentifs aux autres. Si un ami va mal, on s'occupe de lui. Les relations sociales sont plus étroites, plus liées. L'économie n'est pas le plus important.
Pendant 10 ans, l'ancien président Rafael Correa a fait la promotion d'un concept indigène connu comme le Suma Causai, le bien-vivre. Un secrétariat d'État a même été créé pour l'imposer. Pour la psychologue clinique Alexandra Carrasco, le concept a été politisé sans résultat concret, autre que conseiller à la population d'embrasser les arbres pour se rapprocher de la nature.
Je ne sais pas exactement ce qui a été fait en termes de politique publique pour promouvoir le bien-être. Je ne crois pas que le gouvernement ait lancé une enquête sur notre niveau de bonheur, en tout cas pas depuis le secrétariat d'État du bien-vivre.
Après avoir lancé les caravanes de la joie alors qu'il était vice-président, Moreno, pour l'heure, est aux prises avec les suites d'une crise économique encore sévère. Que le paramètre soit précis ou pas, il aimerait bien que le PIB équatorien se remette à grimper, comme lorsque le baril de pétrole était à 100 dollars.
Un reportage Éco-d'ici, Éco d'ailleurs, signé Eric Sanson. Cette idée de donner le produit intérieur brut avec une fourchette, Xavier Ricard-Lanata, vous la retiendriez, vous qui connaissez si bien ces pays latino-américains ?
Avec tout ce qu'on vient de se dire pendant la première partie de l'émission sur les difficultés qu'on a à collecter les données, à avoir une indication qui soit suffisamment fiable, c'est évident que les marges d'erreur sont importantes. Et dans des sociétés où l'économie informelle est énorme, on n'est pas surpris que certains disent que la marge d'erreur peut être de 30 à 40%. C'est certainement moins vrai de sociétés qui sont régies depuis longtemps par le gouvernement, par le nombre, hein, ce qui est le cas de la société française. Mais en revanche, en Équateur, c'est pas étonnant. Non, ce que je trouve très intéressant dans ce reportage, c'est justement cette référence au Sumar Causai. L'ethnologue que je suis ne peut pas y rester insensible. Qu'est-ce que l'on dit dans les Andes? Qu'est-ce que c'est que le Sumar Causai ou le Alin Causai, hein, qui est un concept ou une notion qui vient du Quechua, dans les sociétés
Le Quechua qui était la langue des Indiens Incas.
La langue des Indiens, voilà, des Indiens des Andes, des Indiens Incas, et qui est encore aujourd'hui parlé par 10 millions de locuteurs. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? C'est, on dit, Huarcha. Huarcha, ça veut dire celui qui est dépourvu de relations. Celui qui n'a pas de relations. Et finalement, cette idée qui peut sembler un peu exotique, elle est très universelle. Je crois qu'elle fait écho aussi à des réflexions qu'on a connues, nous, dans une lointaine période, au tout premier temps de l'économie classique. Jean-Baptiste Say disait, il n'est de richesse que d'homme.
Jean-Baptiste Say, un grand économiste.
Physiocrate du 18e, il disait, il n'est de richesse que d'homme. Autrement dit, la richesse est produite par les hommes, et ce sont les hommes, dans les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, qui sont ceux qui apportent une richesse, qui transforment la nature, qui la rendent utilisable ou valorisable par les hommes. Et cette idée que tout est relation et que la richesse n'est que la production d'une qualité relationnelle, je crois qu'elle est très profonde et elle pourrait recueillir le consentement d'un très très grand nombre de sociétés dans le monde. Donc,
l'économiste Xavier Timbo.
Il faut bien partir du point de départ. Le produit intérieur brut, c'est une mesure de la production. Et l'idée que, entre la production et le bien-être, il y a tout un tas de choses qui viennent s'intercaler, c'est assez évident, en fait, à la réflexion. Alors, ceci étant dit, la grande idée des révolutions libérales, au moment du siècle des Lumières, la révolution industrielle, c'est que, malgré tout, l'émancipation des individus passe par l'aisance matérielle. Et que, c'est que même si ce qui est important dans la richesse des individus, c'est le lien social, malgré tout, se loger, s'habiller, se nourrir, recevoir une éducation, être capable de s'émanciper des structures sociales qui sont parfois étouffantes. Et une des idées qui a habité les économistes, et qui est aujourd'hui éminemment contestable, mais qui garde malgré tout un tout petit peu de force, c'est que le développement des économies, l'augmentation du bien-être matériel s'accompagne, alors non pas nécessairement dans une relation de causalité, mais au moins dans une forme de corrélation, s'accompagne de l'émancipation des individus. Et que malgré tout, quand on regarde les choses de très loin, quand il y a augmentation de l'activité économique, il y a aussi généralement augmentation d'un certain nombre d'indicateurs de bien-être. Donc il y a l'idée qu'il y a malgré tout cette corrélation, mais vous voyez, à partir du moment où on fait du produit intérieur brut, ce qu'il est, l'indicateur principal, on peut être amené à faire des choix où on va, sur la base de cette corrélation, en conclure qu'il y a équivalence. Et c'est le passage de la corrélation à l'équivalence qui constitue une erreur de raisonnement et évidemment qui demande d'être plus fin dans la mesure et pas tellement d'avoir une mesure alternative, mais d'avoir au contraire des mesures complémentaires pour bien étudier non plus les corrélations et en déduire des équivalences, mais regarder, est-ce qu'il y a d'abord des relations causales, donc est-ce que le bien-être matériel augmente le bien-être ou pas.
Alors,
c'est une hypothèse qu'on peut pas totalement écarter non plus.
Xavier Ricard, il y a des indicateurs alternatifs. Ça existe. Le pays qui a été le plus loin, tout le monde le connaît autour de cette table, dans l'élaboration d'indicateurs de richesse alternatifs, c'est un petit pays d'Asie, le Bhoutan. Les journalistes de RFI n'y vont pas très souvent. Il y a 10 ans de cela, le correspondant régional de cette radio, Pierre Prakash, s'était rendu sur place. Voici un extrait du reportage qu'il en avait ramené.
Our top story today, the people of Bhutan delivered an unexpected verdict in their first ever parliamentary polls Monday.
Le monde entier avait les yeux braqués sur le petit royaume himalayen du Bhoutan. Ce jour-là, les habitants de ce minuscule pays bouddhiste coincé entre l'Inde et la Chine étaient en effet appelés aux urnes pour la première fois de leur histoire. Une transition de la monarchie absolue vers la démocratie pour le moins étonnante, puisque contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas la population qui réclamait l'élection d'une assemblée. De toute façon, dans un premier temps au moins, leur vie ne devrait pas beaucoup changer, puisque le Parti pour le bien-être du Bhoutan, qui a remporté le scrutin haut la main, ne prévoit rien de très nouveau. Kandu Wanchuk, élu dans la circonscription de Paro.
Les choses se passent tellement bien dans ce pays que si nous tentions de changer de cap, ce ne pourrait être que pour le pire. Par conséquent, nous sommes déterminés à poursuivre les politiques que Sa Majesté a mises en œuvre pendant son règne. Oui, nous poursuivrons donc sur la voie du bonheur national brut. Nous avons d'ailleurs basé l'intégralité de notre programme sur les 4 grands piliers du bonheur national brut, qui sont le développement socio-économique équitable, la sauvegarde de notre culture, la préservation de l'environnement et enfin la bonne gouvernance.
Le bonheur national brut, ou BNB, voici probablement ce pourquoi le Bhoutan a le plus fait parler de lui ces dernières décennies. Imaginé par le roi alors qu'il n'était encore qu'adolescent, ce concept consiste à faire passer le bien-être de la population avant la course à la croissance économique, comme le résume Tarsho Karmaoura, l'un des principaux architectes de cette étonnante philosophie.
En bref, le bonheur national brut consiste à créer une société dans laquelle le bonheur collectif constitue l'objectif principal de la gouvernance. Évidemment, on ne crée pas une société du jour au lendemain comme un dieu. C'est un processus d'adaptation qui se fait lentement, sur la durée. C'est ce que nous faisons dans ce pays depuis 1972, à travers des politiques, des programmes et des indicateurs qui vont dans le sens du bonheur national brut.
De fait, le BNB sert en quelque sorte de cadre général pour toutes les politiques publiques. Et bien que cela puisse paraître ahurissant de l'extérieur, le fait est que malgré le faible développement économique du pays, les Bhoutanais sont dans l'ensemble heureux.
C'est le pays rêvé, Xavier Timbaud.
Le Bhoutan, c'est une utopie concrète qui est effectivement fondée sur le refus de notre modernité. Et ce qui est spectaculaire, c'est que c'est apparemment avec un certain succès. Oui, je pense que c'est un reflet dans un miroir qui nous renvoie une image à laquelle il faut réfléchir. Mais ça va bien au-delà de la question du produit intérieur brut ou du bonheur intérieur brut. C'est vraiment un pays qui a refusé la société de consommation, qui a refusé la question de l'émancipation des individus, de leur liberté, qui repose sur la préservation de la tradition, d'un sentiment collectif très fort, d'une culture très homogène et très religieuse, avec effectivement un certain égalitarisme et probablement un respect de l'environnement et de la société qui est plus important que dans nos sociétés. Voilà, donc c'est une question qui est posée. Mais c'est
Xavier Ricard Lanata pour le mot de la fin,
oui,
très rapidement.
Moi, je ne crois pas qu'il faut faire du combat pour ou contre le PIB un combat pour ou contre la modernité. Moi, je pense que le PIB est un indicateur qui présente de très très grands limites. On les a évoquées pendant toute cette émission. Pour autant, je m'estime pas être un anti-moderne. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, le fait de développer de nouveaux indicateurs qui pourraient soit compléter, soit se substituer au PIB de façon à permettre de concevoir des politiques publiques qui répondent aux défis contemporains, c'est un projet moderne. C'est un projet totalement fondé sur un désir d'émancipation et d'autonomie et pas nécessairement sur un désir de retour à des formes de contraintes sociales. Je crois que démocratiquement, on a les moyens de réfléchir aujourd'hui à des indicateurs qui seraient plus adaptés à ces défis. Vous parliez tout à l'heure de cette corrélation entre le bien-être matériel et le bonheur. Je ne conteste pas qu'il puisse y avoir une telle corrélation, mais regardez entre un berger qui élève ses animaux et qui voit son cheptel s'accroître, mais sans que ça donne lieu à une quelconque transaction, et une personne qui habite en ville, qui fait la manche et qui gagne plus de 2 dollars par jour, ce qui est le seuil considéré par les Nations Unies comme le seuil en dessous duquel on vit en extrême pauvreté, et le berger sera peut-être plus pauvre que le mendiant, parce que le mendiant arrivera à gagner davantage que 2 euros ou 2 dollars par jour. Et en revanche, le mendiant vit dans un état d'indigence et de précarité sociale beaucoup plus grand que le berger qui a un établissement stable et des relations stables avec ses voisins. Donc je pense que c'est plus complexe, et je prends cet exemple, mais encore une fois, aujourd'hui il faut mettre tout ça en regard des grands défis qui sont des défis qualitatifs et des défis pour une grande partie aussi relationnels. Il faut inventer une économie qui soit capable de surmonter ces défis existentiels auxquels l'humanité est confrontée.
Cette émission essaye d'y contribuer à sa manière, mais elle est maintenant terminée. Merci à vous deux, Xavier Ricard, Lanata, Xavier Timbaud, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter via l'application Pure Radio sur notre site internet www.rfi.fr. La semaine prochaine, c'est Olivier Roger que vous retrouverez à ce micro pour de nouvelles aventures économiques. Je vous dis à bientôt.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.